Comment peut-on croire et faire confiance aux personnes qui parlent du monde des défunts et des mondes spirituels, entre guillemets? Partie numéro 3. J'ai évoqué dans les vidéos précédentes plusieurs raisons qui nous amènent à comprendre qu'il peut y avoir des différences, des divergences assez grandes entre clairvoyants qui communiquent, qui témoignent de faits suprasensibles, et donc autant d'éléments qui nous amènent à être très prudents par rapport à ces communications, certainement ne pas nous mettre d'office dans une situation de croyance aveugle, évidemment. Au contraire, il s'agit plutôt d'une invitation à être d'autant plus actif dans notre propre sens de l'observation et de penser activement les faits, d'exercer le discernement, sans pour autant balayer tout comme ça d'un coup et de jeter le bébé avec l'eau du bain, bien sûr. Je vais maintenant évoquer quelques éléments supplémentaires qui sont des mises en garde, mais je dirais des mises en garde qui, lorsque on les aborde, lorsqu'on les connaît, sont à nouveau, visent à nouveau, je dirais, à développer le discernement. Discernement, pas nécessairement à rejeter en bloc nécessairement toute communication concernant des réalités dites spirituelles. Les projections personnelles et les représentations erronées ont un tout autre impact pour un clairvoyant ou une clairvoyante qui perçoit des réalités dites suprasensibles que dans le monde physique. Je m'explique. Dans le monde physique, si je développe une pensée fausse qui concerne un objet, ou une force qui agit dans le monde physique, je ne vais pas produire une réalité de ce fait différente. Si je me représente par exemple que une brique que je lâche va flotter, très très vite, si je fais l'expérience en question, je verrai bien que la brique va s'écraser sur le sol et que la représentation que je me suis faite est erronée, tout simplement. Donc le monde physique, en quelque sorte, est un monde qui sans cesse nous amène à corriger les représentations fausses, les opinions erronées que nous nous faisons à son sujet. Dans les mondes suprasensibles, les choses ne vont pas tout à fait dans le même sens. Les pensées que l'on élabore, les opinions, sont des êtres réels dans le monde suprasensible et ils ont une vie et une action propre. Voilà qui peut paraître vraiment tout à fait étonnant. Rappelons-nous, si c'est nécessaire, ou alors si c'est pas un rappel, c'est important d'en être conscient. Les lois des mondes dits suprasensibles sont très différentes des lois du monde physique. Et plus l'être humain pénètre en profondeur dans ces mondes, plus son regard s'élève dans des mondes spirituels supérieurs, au plus les lois diffèrent des mondes du monde physique. Je disais au plus elles diffèrent parce qu'en effet, il existe différents degrés de développement de la clairvoyance et différents, je dirais, différents degrés de monde supérieur, pour ainsi dire. Donc, j'imagine la situation suivante. Si j'étais clairvoyant et que je me fais des représentations erronées au sujet de réalités suprasensibles, je pénètre dans ce monde suprasensible, j'y fais des investigations, j'y fais des observations, et outre les faits du monde suprasensible que je pourrais y percevoir comme clairvoyant, viennent maintenant s'ajouter en plus les représentations que je me suis formées, qui se manifestent, elles aussi, le cas échéant, sous forme dite imaginative, c'est-à-dire sous forme d'images vivantes, animées d'une vie intérieure, d'une véritable force d'action. Il faudrait bien sûr ici évoquer ou même un peu étudier de plus en profondeur ce que sont ces imaginations. Je vais très vite ici pour évoquer ces réalités, hein, qui sont perceptibles dès que l'on commence à pénétrer dans certaines sphères des mondes suprasensibles. Donc il s'agit de manifestations d'êtres suprasensibles. Il peut s'agir de défunts, d'êtres humains, donc, ou éventuellement d'autres êtres encore. Quand je dis être humain, ça peut être défunt ou pas défunt, d'ailleurs, puisque nous percevons également les êtres encore incarnés dans le monde physique sous une apparence suprasensible, si nous déployons une clairvoyance qui permet d'en faire ce type d'expérience. Eh bien, une des premières expériences possibles, c'est donc une expérience sous forme d'image, dite imagination, un terme qui n'est pas à confondre avec l'usage du mot imagination dans le sens ordinaire du terme, quand on pense à l'imagination créatrice de l'enfant, par exemple, ou même de l'adulte. Il est utilisé ici dans un sens tout à fait spécifique, comme étant un des degrés de connaissance supérieure des mondes suprasensibles. Et donc, dans ces mondes suprasensibles, un type de manifestation possible, ce sont des images douées de forces créatrices et qui sont perçues comme étant totalement réelles. Il ne s'agit pas de simples rêves. C'est tout à fait agissant. Et je venais de dire il y a quelques instants que pénétrant dans les mondes suprasensibles, le clairvoyant qui y pénètre aussi avec ses représentations. Et ce qu'il forme comme représentation, toutes les pensées qu'il forme deviennent des manifestations suprasensibles en tant que telles qui viennent se surajouter, pour ainsi dire, à celles du monde suprasensible objectif. Et j'irais même, on peut encore aller un degré plus loin, c'est ce que nous décrit ici, hein, Rudolf Steiner, à prendre à nouveau comme des hypothèses, mais Rudolf Steiner dit qu'en fait, les pensées fausses dont il est question ne sont pas seulement celles qui peuvent être projetées dans le monde suprasensible par le clairvoyant, mais ce sont celles qui sont projetées par tous les êtres humains d'une façon générale. Prenons un cas concret. Nous nous faisons une certaine représentation au sujet d'une personne qui est décédée. Et un cas comme ça m'a d'ailleurs été relaté, hein, il s'agissait d'ailleurs d'un jeune homme qui est décédé dans un accident de moto. Si nous nous faisons des représentations fausses au sujet de cet être décédé, ces représentations fausses, pour le clairvoyant qui pénètre dans les mondes suprasensibles, sont aussi des imaginations qui viennent continuellement s'interposer entre l'observateur et l'objet de l'observation, créant comme des espèces d'écrans déformants et assombrissant la perception exacte des faits suprasensibles. Voilà donc que le ou les clairvoyants en question sont appelés à être d'autant plus vigilants quant aux représentations, aux pensées, aux opinions qu'ils se forment au sujet des mondes suprasensibles, au sujet de toute réalité d'ailleurs, puisque lorsque ceux-ci n'ont pas un caractère objectif, vont être autant d'éléments qui peuvent venir déformer, parce que s'interposer dans le monde suprasensible entre les êtres objectifs du monde suprasensible et l'observateur. Mais dès lors, il va falloir être très, très rigoureux par rapport à ses propres pensées en tant que clairvoyant, mais également être très vigilant, puisque dans le monde suprasensible viennent aussi se surajouter les pensées fausses que se font les êtres humains au sujet, y compris de personnes décédées, par exemple. Et s'il s'agit de personnalités très connues, très populaires, pour lesquelles on s'est fait des opinions fausses, il est tout à fait possible que le clairvoyant, dans un premier temps, lui aussi, perçoive essentiellement dans la sphère imaginative, notamment dans la sphère dite des imaginations, des contenus qui soient d'abord ceux-là même, qui se manifestent sous forme d'imagination erronée au sujet de cet être décédé. Cinquième élément dans la série que j'ai mentionnée jusqu'à présent, cinquième élément qui peut déterminer le contenu perçu par le clairvoyant lui-même, Cinquième élément, bien, c'est le tempérament de la personnalité clairvoyante, ainsi que son état d'âme. Je vais d'abord revenir à la question de l'état d'âme. Si j'étais une personnalité clairvoyante et que je pénètre dans les mondes suprasensibles, dans un état émotionnel qui est celui de la peur, de la colère, de la tristesse, etc., ces états émotionnels ont des effets qui sont déformants sur le contenu suprasensible qui est perçu. Des états de peur, par exemple, vont amener à la manifestation, à des manifestations sous forme d'images à nouveau, qui peuvent être plus ou moins terrifiantes d'ailleurs. Pour un état de tristesse, ça sera d'autres types de manifestations. Ce qui complique en effet les choses, notamment dans le monde dit astral, pour utiliser cette terminologie, qui est une terminologie ancienne, on peut aussi utiliser le monde dit de l'âme ou encore le monde de l'imagination, pénétrant dans ces sphères suprasensibles, j'ai déjà dit cela, les lois en sont tout à fait différentes, et une de ces lois notamment, c'est que nous avons une espèce d'aversion en image miroir par rapport au contenu de perception que l'on peut avoir dans le monde physique. Dans le monde physique, le nombre 321, s'il est saisi dans le monde suprasensible, dans cette partie du monde suprasensible qu'on appelle le monde astral, deviendra 1, 2, 3. Non plus 3, 2, 1, mais 1, 2, 3. Par ailleurs, les émotions, les sentiments dont est porteur le clairvoyant seront perçus non pas comme quelque chose qui émane de sa propre intériorité, et qui rayonne ou se disperse dans le monde suprasensible. À nouveau, la loi dans le monde astral, en l'occurrence, ici la loi d'aversion s'applique à nouveau, hein, les clairvoyants le connaissent bien, ça en principe, et ces états d'âme seront perçus comme s'il s'agissait d'êtres du monde suprasensible qui, jaillissant du monde suprasensible, se précipitent, pour ainsi dire, sur le clairvoyant ou la clairvoyante. Ainsi, des états émotionnels de peur vont se manifester comme si c'était des êtres du monde suprasensible, plus ou moins effrayants, terrifiants d'ailleurs, qui se précipitent depuis ce monde extérieur suprasensible vers le clairvoyant, ce qui est évidemment de nature à susciter encore un peu plus la peur. Nous voyons tout de suite que un des enjeux de la clairvoyance, de l'initiation aussi, il faudrait aussi préciser là encore ce qu'est l'initiation, ce que je ne vais pas faire maintenant, c'est de parvenir à maîtrise de ses états d'âme, de son intériorité, une maîtrise de son psychisme, tel que c'est avec une totale sérénité, équilibre d'âme, que l'on pénètre dans ces mondes. Il existe d'ailleurs certains exercices communiqués par Rudolf Steiner, dans son ouvrage Comment parvenir à la connaissance des mondes supérieurs pour cultiver l'équanimité et un équilibre, une paix intérieure. Exercices qui sont absolument indispensables avant d'envisager de pénétrer dans ces mondes pour les raisons que je viens d'évoquer notamment. J'ai évoqué l'état d'âme du clairvoyant ou de l'initié. Tout à l'heure, j'avais commencé par évoquer son tempérament. Vous savez probablement, ou peut-être, hein, que Rudolf Steiner distingue quatre types de tempéraments. On distinguait déjà, d'ailleurs, il y a des centaines d'années d'ici. Par exemple, le tempérament mélancolique, ou le tempérament plutôt colérique, le tempérament sanguin, le tempérament flegmatique, qui sont autant d'éléments qui sont constitutifs de manière plus profonde encore de nos êtres humains incarnés, tandis que les états d'âme peuvent varier fortement d'un moment à l'autre, la peur, la colère, la tristesse, la joie, etc. Le tempérament constitue de manière plus permanente une tendance en chacun et chacune d'entre nous. Et selon, par exemple, qu'une L'individualité a un tempérament dominant. Hein. On a tous plus ou moins, bien sûr, les différents tempéraments en nous, mais avec certaines dominantes, un tempérament, disons, mélancolique, pénétrant dans le monde spirituel. Ce ne sont pas les mêmes êtres du monde spirituel qu'elle va percevoir au premier regard. Et ici, je fais référence à certaines catégories d'êtres du monde spirituel qu'on appelle les êtres élémentaires ou les élémentaux. La personnalité avec un, douée d'un, dotée plutôt d'un tempérament mélancolique, explique Rudolf Steiner, sera plutôt confrontée à la perception de certains de ces êtres élémentaires dont la caractéristique, à la nature de repousser les autres êtres dans le monde suprasensible. Ce qui fait qu'arrivant avec un tempérament mélancolique dans ces mondes suprasensibles, une telle individualité aura tout d'abord l'impression d'être comme rejetée, repoussée de toutes parts, par ces êtres-là, dits des êtres élémentaires. Tandis que le tempérament colérique, et ici je ne caractérise pas non plus ces différents tempéraments, hein, je vous invite à étudier ça dans différents ouvrages de sciences de l'esprit d'orientation anthroposophique, c'est un domaine très vaste en tant que tel, mais le clairvoyant qui est doté d'un tempérament colérique sera plutôt environné au premier regard d'êtres élémentaires qui relèvent de cette catégorie d'êtres élémentaires que l'on décrit comme étant dit de feu. Hein. Il aura l'impression d'être dans cette espèce, non pas rejeté par le monde spirituel, mais d'être environné de quelque chose qui est un élément de chaleur incandescente, pour ainsi dire. Et donc, si nous demandons à l'un et l'autre de ces clairvoyants de témoigner de ce qu'ils perçoivent dans les mondes suprasensibles, eh bien, nous aurons affaire à des contenus sensiblement différents. Là encore, il est possible, par certains exercices, par essentiellement une connaissance très objective et approfondie de soi-même, explique Rudolf Steiner, connaissant notamment quelles sont certaines de ses constitutions et tendances profondes, il est possible, par cette connaissance, d'être en mesure de cerner ce qui se passe, pénétrant dans le monde suprasensible, et dépasser ces étapes et être en mesure, bien sûr, dans l'investigation suprasensible, d'accéder à d'autres êtres, à d'autres sphères de connaissances encore. Un des principaux enjeux de l'initiation, c'est donc de pouvoir développer une telle connaissance impartiale de soi. D'une part, j'ai évoqué la question des tempéraments il y a quelques instants, il y a une telle maîtrise aussi de son intériorité, de son âme, ce qu'on appelle la catharsis, hein, c'est la purification de l'âme, que l'être humain puisse devenir, et justement l'intériorité du clairvoyant, de l'initié, puisse devenir un miroir capable de refléter totalement, objectivement, le contenu des mondes supérieurs sans qu'il n'y ait plus de déformation inhérente aux états d'âme, hein, ou de regard unilatéral sur une partie du monde supérieur liée au tempérament du clairvoyant. J'évoque maintenant, et oui, c'est complexe, je sais bien, et c'est vaste, un élément supplémentaire encore, qui permet de comprendre pourquoi il peut y avoir de telles différences et divergences entre clairvoyants qui témoignent des mondes supérieurs. Si l'initiation, donc ce processus qui, étape par étape, permet de pénétrer avec une conscience, une soi-conscience tout à fait éveillée et libre, dans les mondes supérieurs et irrégulières, entre guillemets, si certaines conditions liées à cette initiation en fait ne sont pas réunies, ne sont pas remplies, alors cet initié, ou je veux dire peut-être encore ce clairvoyant, qui n'a pas atteint un degré de maturité suffisant, pénètre dans les mondes supérieurs, dans les mondes suprasensibles, et cette maturité étant insuffisante, son état de santé peut-être sur le plan mental, mais également sur le plan physique, va se dégrader, explique Rudolf Steiner. Lorsque l'initiation, au contraire, est régulière, lorsque la pénétration dans les mondes suprasensibles se fait, lorsque cette individualité a tout d'abord atteint un degré de maturité suffisant, alors, pénétrant dans les mondes suprasensibles, il est possible de recevoir des forces qui lui permettent de faire ces expériences sans qu'il n'y ait parallèlement une dégradation de sa corporité physique notamment. On a donc affaire à deux cas particuliers, deux cas qui à distinguer ici. Le premier cas, une initiation irrégulière. Je pense par exemple à une ouverture de chakra qui se fait de manière sauvage, entre guillemets. Et aujourd'hui, vous savez qu'il existe toutes sortes de possibilités de pénétrer dans des mondes suprasensibles par des pratiques et des méthodes d'ouverture des organes de perception suprasensibles qu'on appelle les chakras, hein, qui le permettent alors qu'on n'a pas du tout atteint, l'être humain n'a pas du tout atteint cette maturité. Autre possibilité, c'est l'usage de certaines substances psychotropes, certains champignons hallucinogènes. On peut s'y arriver par certaines formes de mortification, hein, carrément en détruisant partiellement une partie de son corps, quoi, hein, en l'affaiblissant. Peu importe, il existe différentes façons tout à fait des plus problématiques les unes que les autres de pénétrer dans le monde suprasensible. Et si ça se fait, en effet, il y a accès au monde suprasensible, mais ces êtres humains ne bénéficient pas, ne reçoivent pas une aide de ces mondes qui leur permet de poursuivre ces expériences sans dégrader leur propre corporéité. Et comme ces forces supplémentaires ne sont pas offertes, certes, il y a perception suprasensible, mais il faut aller chercher dans la corporéité, dans les forces du corps, ce qui est nécessaire poursuivre ces expériences suprasensibles. Et il y a donc une espèce de décadence, de dérèglement dans le corps physique. Rudolf Steiner explique que de ce fait apparaît à un moment donné une propension au mensonge. Voilà donc qui peut paraître très bizarre, très surprenant. Mais par ailleurs, je dirais qu'il est corroboré par des expériences que j'ai moi-même faites dans un certain nombre de situations, un nombre certain même, de personnalités que j'ai rencontrées, qui développaient donc plus ou moins la clairvoyance, hein, et qui étaient généralement, donc le plus, dans la plupart des cas, des personnalités particulièrement immorales. C'est le cas le plus fréquent, l'immoralité, le mensonge, hein, sans qu'il y ait une conscience de cette immoralité nécessairement. On vient s'ajouter à ça encore un facteur supplémentaire, c'est que dès que des êtres humains commencent à réaliser des expériences suprasensibles, leur orgueil grandit, je dirais, presque de manière infinie, hein. C'est encore un élément supplémentaire qui ajoute au risque de mensonge. Tandis que, par ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque cette initiation se réalise de manière régulière, il y a constamment et régulièrement, tout aussi régulièrement, des forces qui sont offertes par le monde suprasensible et qui permettent de compenser ainsi ce qui se passe quand ces perceptions suprasensibles se déroulent. Parce qu'en effet, pour un clairvoyant ou un initié qui pénètre dans le monde suprasensible, il y a une conscience qui est considérablement plus éveillée que pour les êtres humains et nous-mêmes dans notre conscience ordinaire. Et ça requiert des forces considérables en permanence. Hein, par exemple, c'est très typique lorsqu'on rencontre des personnalités clairvoyantes. À la fois, elles se tiennent avec leur conscience dans le monde physique ordinaire, comme chacun et chacune d'entre nous, et elles pénètrent parallèlement dans des mondes suprasensibles qui qui peuvent parfois concerner des réalités qui se déroulent ailleurs sur Terre, par exemple. Donc elles doivent avoir une conscience qui est éveillée à plusieurs niveaux, à la fois, et gérer cela, c'est excessivement fatigant en réalité. Et donc on peut comprendre que si la maturité n'est pas atteinte, s'il n'y a pas un surcroît de force supplémentaire venant des mondes supérieurs, très vite, il peut y avoir une véritable déglingue de la santé mentale et physique de ces personnes. Dernier point que je mentionne ici maintenant un peu trop vite en passant, c'est qu'il faut aussi différencier entre médium, voyant visionnaire et clairvoyant. Si je prends le cas des médiums, cité aussi par Rudolf Steiner, c'était très fréquent au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, mais on en trouve encore aujourd'hui. Ce sont des personnalités qui vont communiquer des révélations des mondes suprasensibles, mais qui, au cours de cette communication, vont quasiment perdre totalement la conscience de leur propre individualité. C'est comme si elles étaient possédées, en ce moment-là, par quelque chose d'autre qui s'exprime à travers elles, alors qu'elles perdent totalement conscience d'elles-mêmes. Ou si cette conscience reste encore plus ou moins éveillée, ça devient très flou. Il s'agit donc ici des médiums. Et puis nous avons les voyants visionnaires. Et enfin, à l'autre bout du continuum de cette échelle, des clairvoyants qui se distinguent des voyants visionnaires par le fait, et j'ai déjà mentionné ça tout au début, qu'ils développent une activité pensante, totalement éveillée comme dans le monde sensible, et surtout une conscience d'eux-mêmes qui demeure totalement autonome tout en plongeant dans le monde suprasensible. Donc là encore, il faut différencier totalement différentes constitutions d'êtres humains qui sont susceptibles de nous rapporter des contenus observés dans les mondes suprasensibles. Ça va depuis ces médiums qui perdent totalement la conscience d'eux-mêmes, une totale autonomie d'ailleurs, alors qu'ils sont comme des canaux qui révèlent des contenus suprasensibles dont ils ne contrôlent rien du tout d'ailleurs, jusqu'à l'autre partie du continuum, des clairvoyants qui maintiennent une conscience d'eux-mêmes éveillée, tout en pénétrant dans le monde suprasensible et en étant donc en mesure de s'y orienter de manière libre. Ça représente plutôt, je dirais, la voie d'avenir pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui nous permet de comprendre à quel point il est important, non pas de nier la démarche scientifique, qui est elle-même fondée sur l'observation et l'activité pensante, qui aujourd'hui toutefois se limite au monde sensible, donc non pas la renier, mais au contraire la cultiver, comme étant une étape préparatoire, indispensable même, pour pouvoir ensuite pénétrer dans les mondes suprasensibles. Car c'est en étant incarné sur Terre, dans un corps physique, en développant cette capacité d'observation et de pensée rigoureuse dans le monde physique, que l'être humain, par cet exercice, développe les facultés qui ensuite lui permettent de pénétrer dans les mondes suprasensibles en maintenant son autonomie, cette activité notamment pensante et sa soi-conscience dans les mondes suprasensibles, sans y fusionner, sans s'y confondre, en maintenant sa propre individualité. Je rappelle les causes possibles de divergence entre clairvoyants que j'ai évoquées lors de ces trois vidéos. Premièrement, ils ont leur propre domaine de spécialité, leur propre sphère de connaissance. Deuxièmement, leur sens de l'observation et leur activité pensante sont plus ou moins éduqués, ce qui peut donner lieu à des interprétations plus ou moins nuancées, subtiles ou arbitraires et à l'emporte-pièce, dans l'autre cas. Troisièmement, leurs facultés de perception suprasensible sont plus ou moins étendues. Quatrièmement, des représentations erronées créent des êtres, des réalités erronées dans les mondes suprasensibles. Il va falloir donc être en mesure d'aller au-delà de représentations subjectives, de former des représentations les plus objectives possibles, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde suprasensible. Cinquièmement, les clairvoyants diffèrent entre eux en fonction du fait qu'ils maîtrisent plus ou moins ou pas leurs états d'âme, peur, colère, tristesse, etc. Ce qui va avoir un effet plus ou moins déformant quand on pénètre dans les mondes suprasensibles. Mais également, dans la mesure où ils développent plus ou moins une connaissance objective d'eux-mêmes, notamment une connaissance de leur tempérament, tempérament qui affecte aussi les perceptions suprasensibles, ce ne sont pas a priori les mêmes êtres qui se présentent à la conscience suprasensible. Enfin, j'ai évoqué que l'initiation peut être plus ou moins, entre guillemets, régulière ou irrégulière, hein, plus ou moins sauvage, si je puis dire. À ce moment-là, on a affaire à des clairvoyants qui pénètrent dans les mondes suprasensibles en étant immatures, ce qui va amener une déglingue plus ou moins rapide, je dirais, de leur santé mentale et physique, une propension notamment aux mensonges, il y a des problèmes de moralité qui vont apparaître d'autant plus rapidement. Et enfin, j'ai mentionné aussi qu'il y a lieu de différencier au départ entre médium, voyant et clairvoyant, c'est-à-dire entre des êtres qui sont plus ou moins éveillés ou pas au moment de la pénétration dans les mondes suprasensibles et capables plus ou moins ou pas d'une soi conscience éveillée. Donc il y a des enjeux pour tous les investigateurs des mondes spirituels qui découlent, je dirais, de ces constats. Premièrement, éduquer, auto-éduquer constamment son activité pensante, son penser avec ER, son sens de l'observation, qui sont les piliers de tout acte de connaissance. Développer toujours davantage une démarche de connaissance rigoureuse, non seulement des faits objectifs, mais aussi une connaissance de soi, ça c'est le deuxième élément. C'est impérieux, développer une connaissance de soi objective, ce qui est excessivement plus difficile encore que développer une connaissance des objets du monde extérieur et des êtres du monde extérieur. Développer la maîtrise de soi, une maîtrise de soi également dans le domaine de la moralité, pour un pas dans la connaissance, trois pas dans la moralité. Enfin, un élément que j'ai pas évoqué jusqu'à présent, il y a un enjeu important pour les clairvoyants, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur des résultats d'investigation qui ont été menés par d'autres chercheurs sérieux. Développer la clairvoyance, ça ne signifie pas, pas tenir compte du tout de recherches qui ont été menées par d'autres, au contraire, les résultats d'investigation ou d'expériences menées par d'autres investigateurs spirituels sont aussi des points d'appui qui permettent de développer un discernement fondé pour les clairvoyants aussi. Et puis pour chacun et chacune d'entre nous qui ne sommes pas des clairvoyants, finalement, le véritable et seul point d'appui, lorsque nous sommes confrontés à des communications de personnalités qui nous disent ce qui se passe ou qui est censé se passer dans des mondes suprasensibles, y compris quand ça parle des défunts, notre seul et véritable point d'appui, in fine, c'est notre propre activité spirituelle libre, c'est-à-dire notre activité pensante éveillée, celle de notre je, de notre moi, entre guillemets. Il y a certaines traductions de livres qui utilisent le mot moi plutôt que le mot je, mais enfin, je passe là-dessus. Donc, il est vraiment nécessaire, hein, c'est presque impérieux d'accueillir de tels contenus de connaissances, entre guillemets, comme de simples hypothèses de travail dans un premier temps. Donc, surtout ne pas croire à ce type de contenu. Et encore moins se soumettre à l'autorité ou à la direction spirituelle d'un clairvoyant ou d'un maître spirituel. Ce danger est très très important. Je rapporte ici d'ailleurs les paroles de Rudolf Steiner lui-même qui dit ceci.
Il serait bien fâcheux pour notre mouvement que ceux qui n'ont pas encore la perception du monde spirituel accepte aveuglément ce qui en est dit. Je vous demande, comme je l'ai demandé à Berlin, que ni une autorité, ni la foi ne vous fasse accepter quoi que ce soit de ce que j'ai pu dire et que je pourrais dire à l'avenir. Même avant de posséder la clairvoyance, l'être humain a la possibilité de contrôler les données de l'observation clairvoyante. Je vous prie de ne pas croire sur parole ce que j'ai jamais pu dire concernant Zoroastre et Jésus de Nazareth, Hermès et Moïse, Odin et Thor, et le Christ Jésus lui-même. Déshabituez-vous, je vous en prie, du principe d'autorité, car ce principe nous ferait grand tort. Rudolf Steiner, le 17 juin 1910.
Je donne ici un exemple aussi de situations qui peuvent s'avérer très piégeuses. Le véritable piège, c'est que il est tout à fait possible, et même je pense fréquent, que des communications soient faites par des personnalités clairvoyantes qui concernent des réalités suprasensibles qui soient tout à fait véritables, mais qui soient aussi tout à fait de véritables pièges. Pensez par exemple au piège de souris. Si vous voulez piéger une souris, bien dans le piège de souris, il faut utiliser du vrai fromage. Si on y met du fromage en plastique, ça ne va normalement pas marcher, évidemment. Bien, c'est pareil, je dirais, dans le rapport avec des personnalités clairvoyantes, certaines personnalités clairvoyantes, et j'ai déjà mentionné le danger de l'immoralité, c'est que, généralement, elles vont vous communiquer des contenus qui sont tout à fait vrais. Par exemple, des choses qui concernent votre existence, qu'elles sont, que vous êtes les seuls, absolument les seuls à connaître. Des faits qui se sont déroulés dans votre... que vous voulez dévoiler à personne d'autre. Et une telle personnalité clairvoyante, immorale, peut y avoir accès, elle va vous les communiquer, et c'est clair que ce qu'elle va dire là est vrai. Et va, je dirais, être de nature à montrer qu'elle a à certaines capacités de connaissance. Donc ça c'est le fromage odorant, hein, et donc à ce moment-là démarre le processus que j'appelle le piège, hein, puisque on va généralement les êtres humains confrontés à ce genre de situation vont commencer à prendre tout contenu communiqué par ce genre de personnalité clairvoyante comme étant littéralement parole d'évangile. Et après les choses pourraient commencer à tourner de plus en plus mal. Voilà, j'ai donné ceci comme exemple de piège, hein, et donc ce sont des situations que j'ai pu vraiment très concrètement observer. Hein, il ne s'agit pas simplement d'un cas théorique, malheureusement, de personnes qui ont été ainsi piégées, et même parfois piégées en groupe entier, qui sont rentrées dans ce processus de véritable délire de groupe. Menée, je dirais, par le bout du nez, par une personnalité clairvoyante. Le fromage peut prendre encore autrement la forme d'une simple communication, ça peut aller jusqu'à des expériences suprasensibles, etc. Je passe les détails ici, mais ça peut être bien plus problématique encore. Dans le fond, dans notre relation avec des personnalités clairvoyantes, nous devrions peut-être nous mettre exactement dans la même relation qu'avec un enseignant ou une enseignante, un professeur de mathématiques par exemple. Donc le professeur de mathématiques, hein, dont il est assez clair que par la maîtrise qu'il a des mathématiques, c'est quelqu'un qui a des connaissances avérées, je vais l'exprimer ainsi, et donc quelqu'un qui a priori on peut lui faire confiance. Néanmoins, on ne va pas entrer dans un processus de confiance aveugle. On va certainement encore moins rentrer dans une soumission à l'autorité de ce que nous dit le professeur de mathématiques, ce qui va être déterminant, dans le fond, pour établir si ce qui a été communiqué par cet enseignant est fondé ou pas. C'est le contenu des mathématiques elles-mêmes, et ce contenu des mathématiques, je peux le mettre à l'épreuve de mon activité pensante. C'est par ma propre activité pensante, qui est en fait mon activité spirituelle libre, celle de ma propre individualité, de mon « je », que je vais pouvoir vérifier si ce contenu qui m'est communiqué est fondé ou pas. Et dans le fond, c'est pareil avec le contenu qui est communiqué par des clairvoyants, simplement qu'au début, ces contenus, eh bien, ils sont... Je ne suis absolument pas familiarisé avec ces contenus comme avec le domaine des mathématiques. J'ai beaucoup moins de points de repère. Donc, je vais devoir faire beaucoup plus d'efforts pendant un nombre sans doute considérable et ininterrompu d'ailleurs, des efforts ininterrompus pendant des années, des décennies, pour développer pas à pas le discernement qui permettra de saisir si ce qui m'est communiqué là par tel ou tel clairvoyant, c'est finalement son opinion personnelle, si c'est fondé, si c'est une déformation qui est liée à son propre état d'âme, si c'est carrément une personnalité qui fait des interprétations erronées, même s'il est bienveillant au départ, etc., etc. Donc c'est par le travail intérieur et la recherche ininterrompue que nous sommes en mesure, comme dans le domaine des mathématiques, de pouvoir établir le bien fondé ou pas des contenus qui nous sont ainsi communiqués, tout simplement. Face à ces enjeux, face à ces dangers que j'ai mentionnés, hein, donc il y a des précautions qui peuvent être prises, j'ai évoqué le principe général, mais il y a également des précautions que l'on peut trouver sur un chemin d'initiation qui sont communiquées, par exemple, dans le livre de Rudolf Steiner qui s'appelle « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ou l'initiation ?» qui est un livre de base dans le domaine de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Et je voudrais en particulier ici lire un passage qui est une forme d'encouragement de Rudolf Steiner. Certes, j'ai évoqué beaucoup de dangers qui peuvent exister, il y en a d'autres d'ailleurs encore, hein, j'en ai évoqué un certain nombre, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte définitivement à ce cheminement de connaissance spirituelle. Hein. Certes, danger il y a, mais de toute façon, il y a lieu, et ça correspond à des besoins chez un nombre grandissant d'êtres humains, de faire la clarté sur ces sphères de connaissances, dans ces sphères de connaissances qui concernent des mondes supérieurs. Et je vais vous lire maintenant un passage de Rudolf Steiner, extrait de ce livre, qui constitue une espèce d'encouragement, malgré ces obstacles, à en triompher et à oser néanmoins s'avancer pas à pas sur ce chemin de connaissances des mondes supérieurs.
On parle beaucoup, dans les écrits qui traitent de ces choses, des dangers qui sont liés au fait d'accéder au monde supérieur. Les descriptions de ces dangers, qui y sont parfois faites, sont certes propres à ce que les esprits craintifs ne lèvent qu'avec effroi les yeux vers cette vie supérieure. Mais il faut dire que ces dangers n'existent que lorsque sont négligées les précautions nécessaires. Quand on a au contraire tenu réellement compte de tous les conseils que donne une véritable formation en occultisme, alors la progression se produit, certes en traversant des expériences qui dépassent en force et en grandeur tout ce que peut se peindre l'imagination la plus hardie de l'homme à donner au sens. Mais il ne peut être question d'un préjudice porté à la santé et à la vie. L'être humain découvre des figures horribles menaçant sa vie en tout lieu et en tout temps. Il devient possible pour lui de se servir lui-même de certaines forces et de certains êtres qui sont soustraits à la perception sensible. Et grande est la tentation de s'emparer de ses forces pour les mettre au service d'un intérêt personnel. Ce qui serait illicite, ou par défaut de connaissance des mondes supérieurs, d'utiliser ses forces de façon erronée. Quelques autres de ces expériences particulièrement importantes, par exemple la rencontre avec « le gardien du seuil », entre guillemets, vont par la suite être décrites dans ses essais. Mais il faut tout de même songer que les puissances hostiles à la vie sont présentes même lorsqu'on ne les connaît pas. Il est certes vrai que leur rapport à l'être humain est alors déterminé par des forces supérieures et que ce rapport se transforme aussi lorsque l'être humain entre en pleine conscience dans ce monde qui lui était auparavant caché. Mais en revanche, sa propre existence est intensifiée. Son cercle de vie s'enrichit d'un champ immense.
Il n'y a de véritable danger que lorsque, par impatience ou manque de modestie, l'élève en occultisme s'attribue prématurément une certaine autonomie par rapport aux expériences du monde supérieur, lorsqu'il ne sait pas attendre jusqu'à ce qu'une compréhension suffisante des lois suprasensibles lui soit réellement accordée. Dans ce domaine, en effet, l'humilité et la modestie sont encore moins des mots creux que dans la vie habituelle. Mais si l'élève possède celle-ci au meilleur sens du mot, il peut être sûr que sa progression vers la vie supérieure se déroule sans danger pour tout ce qu'on appelle habituellement la santé et la vie. J'aimerais également conseiller la lecture d'un livre qui s'intitule « Les deux voies vers la clairvoyance », dans lequel on trouvera quelques-unes des considérations que j'ai exprimées aujourd'hui, et d'autres encore d'ailleurs. Il s'agit de conférences de Rudolf Steiner qui ont été rassemblées dans ce livre de poche aisément accessible, je veux dire en tous les cas aisément accessible financièrement. Voilà, et qu'en est-il maintenant de ces vidéos que vous découvrez, dans lesquelles j'exprime moi-même un certain nombre de contenus qui concernent des questions liées au monde spirituel, à la clairvoyance, etc. Faut-il faire confiance? Peut-on les croire? Ben, évidemment non, justement avec tout ce qui a été exposé précédemment, c'est assez clair que ça n'a aucun sens de croire ce que je viens de dire. Je vous invite bien sûr plutôt à vous mettre dans une posture de recherche, en fait, de questionnement très actif, d'éveil de l'observation, de la pensée. D'autant plus que lorsque je donne je présente ces exposés en vidéo, il y a bien plus, sans doute, d'imperfections que ce qui pourrait être fait dans un écrit. Infiniment plus d'imperfections aussi, si je puis dire, quant à la précision, quant à l'exactitude aussi, que ce que l'on peut trouver dans les conférences de Rudolf Steiner lui-même. Dans le fond, ces vidéos sont en quelque sorte simplement une espèce de contact indicatif de l'existence de ces domaines de connaissances, et je vous invite plutôt à rejoindre la source, si je puis dire, à en prendre connaissance directement dans la source elle-même. S'il fallait examiner point de détail par point de détail ce qui a été exprimé dans ces vidéos, il y aurait bien des choses à parfaire. Maintenant vient aussi justement la question qui concerne ces sources. Est-ce que finalement les ouvrages anthroposophiques, les ouvrages dits de science de l'esprit d'orientation anthroposophique, on peut leur faire confiance?